Alors nous reprenons nos travaux de la matinée. Inutile de dire que je suis absolument ravie d'accueillir Benoît Gauthier, dont je dois dire qu'il est à l'origine, en fait, de ce colloque, puisque c'est lui qui, il y a quelque temps, enfin un petit moment déjà, m'avait dit « Ah, Claudine, là, il y a vraiment un sujet, ce serait bien. » Voilà. Donc, on a, grâce à lui, on a creusé les choses, on a essayé de voir avec tous les amis des groupes de recherche en épistémologie et en métaphysique comment on pouvait mettre ça sur pied. Mais c'est Benoît à qui je dois... il faut rendre à César ce qui est à César. C'est lui qui, initialement, a eu l'idée de ce projet. Alors, Benoît... en ce moment, co-dirige à l'Université de Zurich le projet de recherche Suspension of Judgment, Its Nature and Its Norms. Et évidemment, dans le cadre du FNS, entre 2020 et 2004. Donc, c'est un superbe projet. Je suis tout à fait ravie qu'il le mène à bien. Depuis sa thèse consacrée à la tradition pragmatiste, l'épistémologie est son principal domaine de recherche. Et bon, il a écrit un certain nombre de textes, de livres que je ne citerai pas parce que je pense qu'ils sont suffisamment connus. Ce que je crois tout à fait important de noter, en revanche, c'est que il a un projet de livre dont j'espère qu'il paraîtra bientôt. Je crois qu'il est prévu chez Agone en 2023 sur la possibilité du progrès. Bien. Donc j'en ai dit un mot tout à l'heure en présentant mon exposé. Je suis extrêmement curieuse de savoir comment il va aborder cette question. En tout cas, il travaille actuellement principalement sur la nature métaphysique des attitudes doxastiques et sur l'épistémologie de la philosophie. Et donc, nous attendons avec impatience qu'il va nous dire sur sa manière de concevoir ce que pourraient être les essences et quelles essences pour la philosophie. À vous, cher Benoît.
Ouais, merci, Claudine, pour cette invitation et pour avoir... était enthousiaste à l'idée de ce projet de colloque depuis le démarrage, qui a dû être reporté pendant un an ou deux ans pour les raisons qu'on sait. Donc je suis particulièrement heureux que nos activités redémarrent avec ce projet, avec ce colloque, et, pas spécialement avec ce que je vais raconter, mais avec ce colloque. Pour que la chose puisse être comprise dans les deux langues, français et anglais, je parlerai en français, mais toutes les slides sont en anglais. Et j'ai fait l'effort de mettre tout le contenu de ce que je raconte dans les slides. Alors, ça les rend horribles, mais ça les rend... ça fait qu'elles correspondent à ce que je raconte. Alors, c'est un sujet, c'est une présentation que j'ai déjà faite à quelques reprises. Donc, je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà en partie entendu à Zurich. Je l'ai fait aussi dans le cadre des activités du GEM. Mais à chaque fois, j'ai pu bénéficier des retours que j'ai eus, donc c'est le jeu a été complété. J'ose pas dire amélioré, mais en tout cas complété, et rectifié parfois. Et donc là, c'est le produit de ces échanges, notamment avec les membres du GEM, il y a quelques mois, je crois. Donc, quelles essences pour la philosophie ? Le point de départ de cette intervention... c'est le constat que les débats à propos de la nature et de la possibilité de la connaissance philosophique et les débats à propos de la nature et de la possibilité de la connaissance modale sont dans la littérature actuelle séparés. Et la chose est étonnante parce que la philosophie continue d'être conçue assez largement comme cherchant à capturer l'essence des choses et parallèlement, on conçoit de plus en plus la connaissance modale en termes de connaissance des essences. Donc une fois qu'on la conçoit de cette manière-là et qu'on continue d'admettre l'idée selon laquelle la connaissance philosophique, enfin la philosophie a à voir avec le fait de capturer des essences, on pourrait s'attendre à ce que les débats se rejoignent et on n'observe pas cette chose-là. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette présentation. Et dans les, chacun de ces deux débats, le principal défi à relever, c'est comme Claudine Tiercelin l'a rappelé dans son exposé, le principal défi à relever, c'est le défi de l'intégration, hein, s'agissant de la connaissance modale et s'agissant de la connaissance philosophique. Hein, et le défi de l'intégration, dans sa version courte, c'est la tâche consistante à essayer de fournir, pour un domaine donné, une épistémologie et une métaphysique qui soient simultanément acceptables. Et donc, dans cet exposé, je vais essayer de relever ce défi de l'intégration s'agissant du type d'essence que la philosophie cherche à capturer depuis Socrate. Je sais bien que le programme est un peu ambitieux, mais c'est ce qu'il est. La tâche cognitive consistant à lire en anglais et à parler en français étant parfois un peu délicate, je m'excuse si mon français devait être parfois approximatif ou ma syntaxe trop imprégnée d'anglais. On a dans les débats contemporains à peu près trois manières de concevoir la relation de la philosophie aux essences. Alors, on avait la première thèse, la philosophie en tant qu'investigation conceptuelle ne peut pas découvrir d'essences dérées, pas découvrir de faits modaux. C'est par exemple la conception de Ryle et de Strawson, selon lesquelles la philosophie n'a pas à voir avec le fait de découvrir de tels faits modaux et de telles essences, mais à travers, par analyse conceptuelle. Mais ce qu'elle doit faire, c'est essayer de dessiner la géographie logique de nos concepts. La métaphysique, pour Strawson, comme le rappelle Agnew Glock, en tout cas pour utiliser ces mots, reflète notre schéma conceptuel, la structure fondamentale de notre pensée. Donc, selon cette conception, c'est par investigation conceptuelle que la philosophie s'attaque à ces « what is it questions », donc ces questions traditionnelles, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et corrélativement, le but, dans le cadre de cette conception de la philosophie, c'est d'atteindre un certain type de compréhension des choses qui ne consiste pas à découvrir des vérités à propos de ces choses au sens où la science cherche à découvrir des vérités à propos du monde. Voilà. Selon cette conception, les essences en question doivent être clarifiées, comprises, plutôt que connues. C'est ce qu'on retrouve souvent énoncé. Et deux avantages de cette, plutôt c'est un seul et même avantage de cette conception de la philosophie, c'est comme le dit Amy Thomason, ça lui permet d'éviter d'éviter d'être en position de rivalité avec la science. C'est déjà un avantage, au moins les territoires sont bien délimités. Et donc, si cette conception de la philosophie était vraie, bon, on éviterait d'avoir une forme de rivalité avec la science. Le second avantage de cette conception, c'est qu'elle permet d'échapper au mystère épistémique engendré par l'idée que les affirmations modales que l'on fait en philosophie sont des affirmations descriptives qui requièrent des worldly truth makers. Ça, je n'essaierai pas de le traduire tout de suite, comme ça, au débeauté. Il y a un peu l'idée sur laquelle il serait étonnant que par investigation conceptuelle, on puisse dégager des vérités à propos de faits modaux réels. Alors, il est assez pratique de dire, non, ce n'est pas ce qu'on essaye de faire. Et donc, quand on a cette conception-là de la philosophie, et donc, on n'a pas essayé d'expliquer comment il serait possible, en clarifiant des concepts, de dire des choses à propos des essences réelles qu'il y a dans le monde et des faits modaux qui s'en suivent, selon certaines conceptions des essences. Bon, vous avez, par opposition, si on veut, à cette conception, de la philosophie comme investigation conceptuelle, l'idée selon laquelle la philosophie, elle est continue, elle est en relation de continuité avec la science, et elle peut découvrir des essences et des faits modaux dérés. Vous avez notamment la version naturaliste, selon laquelle la philosophie ne consiste pas en investigation conceptuelle, purement conceptuelle, mais continue, ou est même en continuité, ou est même une partie de la science. Donc, il y avait par exemple David Papineau, je crois aussi que Claudine a mentionné dans sa présentation, défend ce genre de point de vue en disant par exemple que comme la science, la philosophie a à voir avec le fait d'évaluer et de développer des théories synthétiques à propos du monde. Oui, ça c'était une illustration, par exemple, s'agissant de l'épistémologie, vous avez la position de Hilary Cornblith, qui soutient que l'épistémologie, dans cette perspective, est une entreprise empirique avec une méthodologie qui n'est pas différente de celle des sciences. Et il écrit notamment « Il se peut que nous nous trompions à propos de la véritable nature de la connaissance et de la justification, tout comme nous pouvons nous tromper sur la vraie nature des acides. Examiner nos concepts ne nous permettra pas de résoudre le problème ou de traiter la question. Si nous voulons avoir une véritable compréhension de la connaissance elle-même, nous devons observer, nous tourner vers le phénomène en lui-même et pas vers notre concept de ce phénomène, notre concept de la connaissance. Ça je vais peut-être passer, c'est pour vous indiquer que la position de Williamson peut aussi rentrer dans le cadre de cette section 2, même si ce n'est pas d'un point de vue naturaliste qu'elle rentre dans ce cadre. Pour Williamson, la philosophie à avoir vise principalement à découvrir quels types fondamentaux de choses il y a et quelles propriétés ils possèdent, quelles relations sont en place. Et plus spécifiquement, il s'agit de découvrir ce qui est métaphysiquement nécessaire et pas uniquement ce qui est conceptuellement nécessaire lorsqu'on fait de la philosophie. Mais il n'affirme pas ces choses depuis un point de vue naturaliste, puisque la philosophie peut être en partie au moins pratiquée en fauteuil, en ayant recours cependant aux mêmes capacités cognitives qui sont celles qui sont impliquées dans nos évaluations quotidiennes de contrefactuels. L'idée, c'est que, puisque ce sont les mêmes capacités qui sont impliquées et que s'agissant de nos raisonnements contrefactuels ordinaires qui ont à voir avec le cours empirique des choses, ces capacités ont un certain degré de fiabilité, et il s'ensuit qu'on peut attendre le même degré de fiabilité de l'usage de ces capacités lorsque on fait de la philosophie qui a aussi à voir avec des raisonnements contrefactuels. Voilà, pour l'essentiel, c'est ça l'idée. Bon, et puis vous avez une troisième conception de la philosophie dans sa relation aux essences, dans les débats contemporains. Il y en a d'autres, mais j'en ai pris trois qui me semblent dominantes ou frappantes. La conception de Jill Lowe, selon laquelle la philosophie n'est pas une entreprise d'investigation conceptuelle, mais peut découvrir des essences, des faits modérés, tout en n'étant pas en continuité avec la science. Voilà. Donc ça, c'est la combinaison d'E.J. Lowe, pas de l'investigation conceptuelle, peut découvrir des essences et des faits modérés sans pour autant être en continuité avec la science ou une partie de la science. L'idée de base de cette conception, c'est celle selon laquelle la philosophie, pour découvrir ses essences, sa découverte des essences procède d'une compréhension de définitions réelles, c'est-à-dire des définitions qui capturent ou expriment l'essence des choses qui sont ainsi définies, en indiquant les conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour que ces choses soient ce qu'elles sont. Et il a cette citation qui est intéressante dans ce contexte. « Connaître l'essence de quelque chose, ce n'est pas être en relation d'acquaintance avec un certain type de choses, d'une nature spéciale, c'est simplement comprendre ce qu'est exactement ou ce qu'est au juste cette chose. C'est pourquoi la connaissance de l'essence est possible, en ce qu'elle est simplement un produit de la compréhension et non de l'observation empirique, et encore moins d'une acquaintance mystérieuse, quasi perceptuelle, avec des entités ésotériques d'une sorte quelconque. » Voilà. Donc là, je ne vais pas vous indiquer... Pour chacune de ces conceptions, je n'ai pas indiqué les objections qu'elles étaient exposées. Je vais simplement indiquer expliquer leur contenu très brièvement. Pour chacune d'entre elles, on pourrait soulever tout un tas d'objections. Je voulais simplement en indiquer l'essence, pour le coup. Je passe sur la manière dont, selon Lowe, la philosophie et la connaissance empirique interagissent dans la perspective qui est la sienne. Et quand je le passe cette fois, je vais le faire. Il me semble que ce qui est frappant à propos de ces trois conceptions de la philosophie, de la façon dont les philosophies peuvent saisir ou capturer des essences, c'est qu'elles sont uniformistes, pour utiliser un concept qui a été récemment employé par Ilya Whirling, je suppose qu'on prononce. Cette idée, l'idée qu'elles sont ces trois conceptions uniformistes, ça consiste à relever le fait qu'elles présupposent qu'il n'y a qu'un accès, qu'un type d'accès fondamental à l'essence des choses. Okay. Et à des choses qui sont aussi diverses que des personnes, de la connaissance ou de l'or. C'est-à-dire que quand on se demande ce qu'est l'essence de l'or, l'essence des personnes, l'essence de la connaissance, selon ces trois conceptions que j'ai brièvement indiquées, elles disent, voilà la manière dont on peut connaître ces choses ou comprendre ces choses sans faire de distinction entre ces choses au sens où elles ne disent pas s'agissant des personnes, il faut procéder comme ci, s'agissant de la connaissance, il faut procéder comme ça, s'agissant de l'or, il faut encore procéder autrement pour connaître l'essence de ces choses, à supposer qu'il y en ait une. Mais cet uniformisme, il est douteux en raison l'hétérogénéité métaphysique ces différentes choses, et en particulier, au-delà de ces différentes choses, il est douteux notamment en vertu de la différence qui existe entre les entités concrètes et les entités abstraites. Il est douteux que l'on ait accès à l'essence d'entités concrètes et à l'essence d'entités abstraites de la même manière. Et en vertu de cette hétérogénéité, Sandra Rocarreyes écrit qu'on devrait être suspicieux vis-à-vis de toute tentative uniforme d'expliquer comment la connaissance des essences est possible, tentative qui ne soit pas sensible à cette hétérogénéité métaphysique. Donc de ce point de vue-là, elle indique pourquoi la conception qu'elle développe à propos de la connaissance des essences des entités concrètes ne peut pas valoir ou s'applique mal pour la connaissance des essences ou la connaissance modale, des vérités modales concernant des entités abstraites. Et la différence, vous savez, métaphysique principale entre entité concrète et entité abstraite, c'est le fait que, contrairement aux entités concrètes, les abstracta sont dépourvus de localisation spatio-temporelle et de pouvoirs causaux. De ce point de vue-là, il est plus difficile de comprendre comment il pourrait y avoir, par exemple, une connaissance empirique de ces abstracta en vertu de ce défaut, ce double de leur... en vertu du fait qu'ils ne possèdent pas ces propriétés, à savoir des pouvoirs causaux et une localisation spatio-temporelle. Et donc, vous avez ce qui se dessine, c'est l'idée selon laquelle, puisqu'il ne semble pas pouvoir y avoir de connaissances empiriques des abstracta, et que, corrélativement, l'idée d'une connaissance a priori des essences d'entités concrètes est douteuse, alors il semble bien qu'il y ait deux routes qui se dessinent, pour conduire à la connaissance des essences, une route a priori et une route a posteriori. En tout cas, ça semble assez naturel dans le contexte que j'ai indiqué. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est montrer pourquoi l'uniformisme est faux. J'ai dit qu'il était douteux, mais maintenant, on va essayer de montrer qu'il est faux en comparant deux listes de choses. D'un côté, on va prendre une liste qui contient les choses suivantes, l'eau, l'or et les citrons. Puis de l'autre côté, on va mettre dans la liste la croyance, la connaissance, la religion, le fait d'être une personne, causation, le fait d'être la cause de quelque chose, l'action libre et la démocratie. J'aurais pu mettre d'autres choses, mais voilà, j'ai mis ces choses-là. Et donc, je vais comparer ces deux listes de choses et montrer que la connaissance des essences des choses qui appartiennent à la première liste diffère fondamentalement de la connaissance des essences des choses qui appartiennent à la seconde. Et si c'est le cas, il s'ensuit que toutes les essences ne peuvent pas être connues de la même manière. Pour montrer ça, je pars d'une différence intuitive entre ces deux listes. Cette différence intuitive, c'est le fait qu'à la question de savoir est-ce que les choses qu'on prend plus ou moins intuitivement pour des croyances, des connaissances, des religions, des personnes, des causes, des actions libres, des démocraties en sont réellement, à cette question, on ne répondrait pas « ça dépend de ce dont ces choses sont faites ». Mais c'est au contraire ce qu'on répondrait assez naturellement à la question « est-ce que les choses qu'on prend, étant donné leurs propriétés observationnelles, pour de l'or, pour de l'eau ou pour des citrons, en sont réellement ?» Et il serait naturel dans ce cas-là d'ajouter « et ça, il n'y a que des investigations empiriques qui pourront nous le dire ». Donc l'idée, ça va être de creuser cette différence intuitive. Ça c'est pareil, c'était juste pour indiquer que ce que j'ai raconté à propos de l'eau, ça marche aussi pour des citrons, ça marche aussi pour ça marche pour des citrons aussi. On ne dirait pas à propos de deux choses qui sont dans un panier qu'on tient pour des citrons sur la base de leur apparence, à propos de deux lingots sur une table que l'on tient pour être deux lingots d'or, ou à propos de deux verres sur la table que l'on tient pour être des verres d'eau. Alors, à la question de savoir si ces choses sont réellement identiques en nature, on répondrait « il faut voir de quoi ces choses sont faites, et ça, il n'y a que des investigations empiriques qui pourront nous le dire ». Mais ce n'est pas à nouveau comme ça qu'on répondrait à la question « est-ce que ces deux croyances qu'on tient pour être de la connaissance, est-ce que ces deux pratiques que l'on tient pour être des cadres de religion, est-ce que ces deux êtres que l'on tient pour être des personnes sont réellement identiques en nature ?» On ne répondrait pas « ça dépend de ce dont ces choses sont faites ». Alors, l'idée selon laquelle la constitution matérielle sous-jacente, des choses ou ce dont elles sont faites détermine si des choses que l'on tient, étant donné pour leur propriété observationnelle, pour de l'eau, pour de l'or ou pour de citron, en est réellement. Cette idée, elle fonde, me semble-t-il, assez clairement, le micro-essentialisme défendu par Kripke et Putnam dans les années 70. Alors, je vais dire quelques mots très brièvement de ce micro-essentialisme, même si c'est peut-être pas nécessaire à mon propos. C'est simplement pour essayer de dégager la connexion entre cette idée et le micro-essentialisme, montrer que donc cette idée le fonde, et pour montrer aussi qu'il y a toute une partie du micro-essentialisme qui me semble assez solide et pouvoir être dégagé d'aspects qui sont problématiques. Alors voilà, selon le micro-essentialisme, pour que les deux lingots sur mon bureau soient des lingots d'or, ou pour que deux membres d'une même espèce naturelle en soi, ou pour qu'on ait affaire à deux instances d'une même substance, il est nécessaire et suffisant que ces choses aient la même constitution atomique, et cette constitution atomique constitue l'essence de l'or. Ça, c'est pareil avec l'eau. Il faut que les deux liquides, les deux verres en question, contiennent un liquide qui possède la même microstructure qui fait de l'eau la substance chimique qu'elle est. Okay. Alors, question de savoir si c'est H2O, elle est disputée, mais c'est clairement pas H2O en fait, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et la chose vaut mutatis mutandis pour les espèces biologiques, les biological kinds, et on va voir que c'est pas la même chose que les biological species, pour les types biologiques, mettons, dans le cas desquels l'ADN est la microstructure pertinente, et pour que des choses que l'on tient pour des citrons ou des tigres soient des instances du même type biologique, il est nécessaire et suffisant que leur ADN soit suffisamment similaire. Alors, une note à propos de ce suffisamment similaire et de ces types biologiques, je ne sais pas comment on dit en français. Cette idée, elle est compatible avec le fait d'admettre que s'agissant des entités biologiques comme les tigres ou les citrons, on a affaire à un continuum de caractéristiques génétiques au sein duquel il n'y a pas d'articulation privilégiée qu'il faudrait identifier. Ce qui rend chaque groupement de ces entités sur la base de leur ADN partiellement arbitraire, inévitablement. Mais il me semble que ce fait change absolument rien au fait que ce soit leur ADN qui détermine leur degré de similarité en nature, le degré auquel ces choses sont de nature similaire, et c'est au fait que ce soit leur ADN donc qui détermine quelles sont parmi ces entités celles qui sont plus ou moins proches les unes des autres. Bon, je vais peut-être passer sur la différence entre biological kinds and biological species. Je passe, voilà. Donc maintenant, sur ce que le micro-essentialisme implique et n'implique pas, il signifie que les propriétés microscopiques en question sont responsables des propriétés macroscopiques observables et du comportement observable de ces différentes choses dans telle et telle condition environnementale, mais il ne signifie pas, il n'implique pas que ces propriétés microscopiques ont le pouvoir de causer chez l'entité qui possède ces propriétés, de causer indépendamment de son environnement, de l'environnement de cette entité, certaines propriétés macroscopiques. Autrement dit, cette idée est compatible avec le fait que les propriétés macroscopiques des entités concernées sont le résultat causal de l'interaction de ces propriétés microscopiques et de l'environnement des entités en question. Et donc, j'indique aussi que le micro-essentialisme est parfaitement compatible avec le fait que, par exemple, les traits phénotypiques d'un animal sont le produit d'interactions complexes entre les gènes de l'individu concerné et de son environnement. Le reste de la citation a moins d'intérêt. Bon, en tout cas, n'est pas nécessaire. Donc, ce que le micro-essentialisme implique, c'est que des entités avec la même microstructure pertinente ne peuvent pas avoir ou acquérir dans des conditions environnementales identiques des propriétés macroscopiques différentes. Et il implique aussi que toute différence microstructurelle entre deux entités serait la cause de l'acquisition de différentes propriétés macroscopiques dans certaines conditions environnementales possibles. Je pense que j'ai traduit n'importe comment ce que j'ai écrit ici en anglais, mais vous aurez rectifié. Ok. Alors ça, c'est peut-être la pire slide. Rassurez-vous, c'est la dernière de ce genre. Il y en a d'autres. Donc, comme je l'ai dit, cette idée selon laquelle la constitution matérielle sous-jacente détermine de certaines choses comme celles que l'on tient pour de l'eau, de l'or ou des citrons détermine s'ils en sont réellement, elle fonde le micro-essentialisme, mais le point sur lequel là, que je voudrais relever, c'est que cette idée, elle n'est pas le produit d'une découverte empirique. Okay. On n'a pas découvert empiriquement que c'est ce dont ce lingot est fait, c'est ça. On n'a pas découvert empiriquement que c'est sa constitution matérielle sous-jacente qui détermine si ce lingot est réellement ou non de l'or. Okay. Ça, c'est un point important. Cette chose-là n'est pas le produit d'une découverte empirique. Ce qu'on a découvert empiriquement, par contre, il y a plus d'un siècle, c'est que cette constitution matérielle sous-jacente, elle consiste en la microstructure du lingot. Ça, c'est une découverte empirique. Mais le fait que ce soit ce dont ce lingot est fait qui détermine son essence, cette chose-là n'est pas le produit d'une découverte empirique. De même, la vérité selon laquelle c'est par des moyens empiriques que l'on peut espérer découvrir la microstructure du lingot, cette vérité-là n'est pas elle-même non plus une vérité empirique. On n'a pas découvert empiriquement que c'est empiriquement qu'on peut espérer découvrir ce dont le lingot est fait. Et ces observations-là expliquent pourquoi on ne dirait pas « Ah, j'espère qu'on n'est pas dans l'erreur » quand on pense que c'est ce dont un lingot est fait, c'est ce dont un lingot est fait qui détermine ce qu'il est. On ne dit pas non plus « Ah, j'espère qu'on n'est pas dans l'erreur » lorsqu'on juge que c'est empiriquement qu'on peut découvrir ce dont ce lingot est fait. Par contre, à l'inverse, on peut dire, il fait parfaitement sens de dire « J'espère que l'on ne se trompe pas lorsqu'on juge que c'est sa microstructure qui nous dit ce dont ce lingot est fait. » Ou « J'espère qu'on ne se trompe pas lorsqu'on juge que sa microstructure est telle ou telle. » Okay. Conséquence de ce qui précède. Ah, si ce qui précède est correct, il s'ensuit que, s'agissant de l'essence de ces choses, de l'eau, de l'or, du citron, j'ai dit, je crois, c'est ni entièrement a priori, ni entièrement a posteriori qu'on les connaît. On sait a priori que la structure matérielle, que la constitution matérielle sous-jacente d'un lingot détermine son essence, ce dont est fait un lingot détermine son essence, et on sait a priori que c'est empiriquement qu'on peut espérer la découvrir. Autrement dit, on sait a priori ce qu'il faut rechercher pour découvrir l'essence du lingot, à savoir ce dont il est fait ou ses propriétés matérielles sous-jacentes qui déterminent ses propriétés macroscopiques dans un environnement donné. Un point important, c'est que le fait qu'on sache cela a priori est précisément ce qui rend cette découverte, la découverte de l'essence du lingot, possible. Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas moyen de déterminer, en observant empiriquement ce lingot, quelles sont parmi ses propriétés celles qui sont essentielles et celles qui sont accidentelles. Pourquoi ? Parce que, comme Oderberg l'a souligné, le fait pour des propriétés d'être possédées de façon essentielle ou de façon accidentelle n'est pas quelque chose qui fait de différence observationnelle. Donc c'est parce qu'on sait ces choses a priori, en gros, qu'on sait quoi chercher. Tandis que si on ne savait pas cette chose-là de façon a priori, on observerait simplement tout un tas de propriétés à propos desquelles on ne pourrait pas empiriquement déterminer quelles sont parmi ces propriétés celles qui sont essentielles et celles qui sont accidentelles, en vertu à nouveau du fait que il n'y a pas, ce fait-là ne fait pas de différence observationnelle. Maintenant, tournons-nous vers l'autre liste de choses, qui est plus longue. Croyances, connaissances, démocratie, personnes, etc. Est-ce qu'il fait sens, à propos de se dire qu'on pourrait découvrir empiriquement leur essence, s'agissant de ces choses ? Autrement dit, que de la même manière que, s'agissant de l'or et de l'eau, c'est par instigation empirique qu'on a découvert leur essence ou qu'on peut espérer découvrir leur essence, est-ce qu'on pourrait dire la même chose s'agissant de la connaissance, de la religion, du fait d'être une personne, etc. Cette idée, ça signifie la chose suivante, cet espoir, pour certains peut-être, cette idée, on peut la reformuler de la façon suivante: on pourrait empiriquement découvrir que quelque chose que l'on tient, étant donné notre concept de connaissance par exemple, pour être une instance de connaissance, en réalité, n'en est pas. C'est-à-dire que si le modèle, ce qui vaut pour l'eau ou l'or vaut pour la connaissance, on pourrait énoncer cette phrase. On pourrait découvrir empiriquement que des choses que l'on prend, étant donné notre concept de connaissance, pour des instances de connaissance, en réalité, n'en sont pas. Et il pourrait faire sens d'avoir peur de se tromper s'agissant de choses que l'on tient pour des instances de connaissance. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que cette idée, et donc avec elle cette crainte, ne font pas sens. Donc voyons si des découvertes empiriques pourraient nous autoriser à dire la chose suivante. Je vais la citer. C'est la version en fait développée de cette idée. C'est toujours la même chose. Il s'agit juste de voir si cette idée peut faire sens. Il y a, et en la développant comme ça, je pense qu'on peut faire apparaître qu'elle n'en a pas. Il y a certaines conditions C que, selon notre concept ordinaire de connaissance, il faut satisfaire pour que quelque chose soit de la connaissance. Mais ce concept ne capture pas ce qu'est la connaissance. En effet, pour que quelque chose soit de la connaissance, certaines autres conditions, C étoile, doivent être satisfaites. Et nous avons découvert empiriquement que ce qui satisfait C ne satisfait pas toujours C étoile. Okay. Voyons si cette idée fait sens, qui est à mon avis la forme correcte ou la plus développée de l'idée selon laquelle on pourrait découvrir empiriquement l'essence de ces choses comme on a découvert l'essence de l'eau ou de l'or. Supposez qu'on ait découvert empiriquement que ce qui satisfait C ne satisfait pas toujours C étoile. La question est, pourquoi est-ce qu'il faudrait déduire de cela la conclusion que ce qui satisfait C n'est pas en réalité de la connaissance, plutôt que la conclusion que les conditions C étoiles ne doivent pas être satisfaites pour que quelque chose soit de la connaissance. Pour être autorisé, ou pour pas avoir d'autre choix que de tirer cette conclusion de cette découverte, il faudrait savoir au préalable que quelque chose doit satisfaire ces conditions, ces étoiles, pour être de la connaissance. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre d'aucune découverte empirique. Okay. Corrélativement, il ne faut pas espérer apprendre de l'étude empirique de quatre connaissances ce qu'est la connaissance, autrement dit, quelles sont les conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour qu'une chose soit de la connaissance, parce que cette stratégie reviendrait à dire la chose absurde suivante. Parce que nous savons que telle et telle chose sont des cas de connaissance, puisque ces choses satisfont certaines conditions, on peut espérer apprendre de leur étude empirique ce qui fait de ces choses des cas de connaissance. Et manifestement, cette idée, cet énoncé est absurde. Et conséquence ou morale de l'histoire, si vous voulez, il n'y a pas de vérité empirique à découvrir à propos des choses que on tient pour tomber sur notre concept de connaissance qui nous mettra en position de déterminer si ces choses sont réellement des cas de connaissance et pas simplement des choses qui satisfont les conditions qui doivent être satisfaites pour tomber sous ce concept. Et le raisonnement que j'ai indiqué dans les deux slides précédentes, ça marcherait exactement de la même manière si par connaissance, à la place de connaissance, j'avais mis croyance, religion, personhood, causation, action libre et démocratie. Et ça fait apparaître, vous avez peut-être reconnu qu'à propos de ça, là, que c'est en réalité une formulation du problème classique du critère, mais à travers la forme que je lui ai donnée, ça fait apparaître que ce problème classique du critère, il vaut pas simplement à propos de la connaissance, mais à propos de chacune de ces choses, et qu'il est donc bien plus général, et il s'étend bien au-delà de la question de savoir s'il est possible de définir la connaissance. Ok. Ce qu'implique cette idée. Donc l'idée selon laquelle, puisque c'est à laquelle on a abouti, l'idée selon laquelle l'essence des choses de la liste B, hein, croyance, connaissance, personhood, etc., donc qu'implique cette idée selon laquelle l'essence de ces choses ne peut pas être empiriquement découverte. Ce qu'elle n'implique pas, c'est qu'il n'y a pas d'importante découverte à faire, découverte empirique à faire à propos de ces choses. Je ne dis pas ça. Il y a plein de choses à découvrir empiriquement à propos de la connaissance, de la croyance, du fait d'être une personne, de ce que c'est qu'être une cause, etc. Par exemple, parmi ces découvertes qui doivent être faites empiriques à faire à propos de ces choses, il y a la question de savoir s'il y a des choses dans le monde qui satisfont les conditions non empiriquement, qu'on ne peut pas découvrir empiriquement, non empirically discoverable, qui doivent être satisfaites pour que ces choses soient instanciées. Autrement dit, il y a des conditions pour être ces choses qu'on ne peut pas découvrir empiriquement, mais ce qu'il faut découvrir empiriquement, c'est s'il y a des choses dans le monde qui satisfont ces conditions qui ne peuvent pas être découvertes empiriquement. C'est la première chose, le premier travail empirique. Ça correspond assez au plan de Canberra, je pense que vous avez ça immédiatement en tête. Le deuxième travail empirique qu'on peut faire, c'est se demander comment certaines choses en sont causalement venu à satisfaire ces conditions qui sont non empiriquement découvrables. Par exemple, Vous avez besoin de travail empirique pour savoir s'il y a des pays dans le monde qui satisfont les conditions qui sont requises pour être des démocraties. Okay. Ça, c'est un travail empirique, voir s'il y a des conditions dans le monde, des pays dans le monde qui satisfont les conditions qui sont requises pour être des démocraties, conditions qui ne sont pas, elles, empiriquement découvrables. Et vous pouvez, il y a aussi du travail empirique à faire pour savoir ce qui a conduit certains pays à satisfaire, ce qui a conduit causalement certains pays à satisfaire à ces conditions, autrement dit à acquérir ou à posséder les propriétés en vertu desquelles ils sont des démocraties. Donc voilà des tâches empiriques qui restent à faire à propos des choses en question. Donc là, cette fois-ci, c'est la vraie morale de l'histoire. L'uniformisme est faux, si ce que j'ai raconté est correct, parce que les conditions qui sont individuellement nécessaires et ensemble suffisantes pour que des croyances, des connaissances, des religions, etc., soient ce qu'elles sont, ces conditions ne peuvent pas être empiriquement découvertes, mais c'est empiriquement qu'on peut espérer découvrir l'essence des choses de la liste A, à savoir l'eau, l'or, les citrons et les tigres. Là, j'ai rajouté les tigres. Voilà. Il s'ensuit, si ces deux énoncés sont vrais, que l'uniformisme est faux, autrement dit, que toutes les essences ne peuvent pas être connues de la même manière. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. La question qui se pose maintenant, c'est comment expliquer le non-uniformisme, un défaut de meilleur concept. Donc, comme je l'ai déjà dit, une idée intuitive, c'est celle selon laquelle le non-uniformisme, on peut le fonder, il procède de, on va dire ça pour grounding, l'hétérogénéité métaphysique entre entités concrètes et entités abstraites. Mais le problème avec cette distinction, c'est qu'elle ne peut pas expliquer la différence que j'ai faite entre les choses de la liste A et les choses de la liste B, parce que les choses de la liste B ne sont pas des abstracta. Des personnes, des causes, des actions liées, des démocraties ne sont pas des abstracta. Ces choses sont spatio-temporellement localisées et possèdent des pouvoirs causaux. Okay, les démocraties possèdent des pouvoirs causaux, une démocratie est localisable, une personne possède des pouvoirs causaux, possède une localisation spatio-temporelle, etc. Donc, la distinction que j'ai faite entre liste A et liste B, on ne va pas pouvoir la fonder sur la distinction entre entité concrète et entité abstraite. Donc, je propose un meilleur candidat pour fonder la distinction que j'ai faite entre la liste A et la liste B. Et cet autre candidat, c'est la distinction entre réalisabilité multiple et réalisabilité unique. Alors, je fournis ici une définition, il me semble, minimale de la réalisabilité multiple. Je vais y aller. Une propriété ou un type K+ est réalisable de façon multiple si et seulement si différentes propriétés ou types K- de niveau inférieur peuvent donner lieu à des instances de K+ qui ne diffèrent pas en termes de caplucité, qui ne diffèrent pas en termes de caplucité de la façon dont les instances de... Non, ça, je ne peux pas le faire en français tout de suite comme ça. Alors, je vous laisse lire tranquillement en anglais et ça sera beaucoup plus clair que si j'essaye de traduire ça en français. Donc, c'est une définition minimale. Je vous donne simplement de me croire à propos du fait que c'est une bonne définition de la réalisabilité multiple. Voilà. Donc maintenant, là, c'est un exemple de réalisabilité multiple. C'est pour illustrer la définition un peu abstraite qui a été donnée juste avant. Donc l'exemple typique s'agissant de la réalisabilité multiple, c'est la douleur. Et pour expliquer ce que c'est, et aussi, c'est un bon candidat à la réalisabilité multiple. L'idée, c'est qu'il est concevable, il y a trois prémices et puis il y a des conclusions. La prémisse 1, c'est qu'il est concevable que des organismes vivants tels que les tigres, les alligators ou les canards, dont les propriétés physiques diffèrent fortement des nôtres, fassent l'expérience de la douleur, en dépit du fait que leurs propriétés physiques soient différentes des nôtres. Prémisse 2, on ne peut pas éprouver de la douleur, pour notre part, sans que certaines fibres soient activées. Prémisse 3, ces animaux, étant neurophysiologiquement et neuroanatomiquement différents de nous, ne possèdent pas de telles fibres. Il s'ensuit que s'ils font l'expérience de la douleur comme nous le faisons, alors la propriété physique en question, à savoir avoir ces fibres qui sont activées, n'est pas nécessaire au fait d'expérimenter de la douleur. Autrement dit, une pluralité de propriétés physiques peut donner des sens à des instances d'un même type de douleur, ce qui signifie la douleur est réalisable de façon multiple. Voilà, ça, c'était pour illustrer l'idée de réalisabilité multiple. Alors maintenant, on va appliquer cette idée à nos deux listes de choses. Et on en aura presque terminé. S'agissant de l'or, de l'eau, des citrons ou des tigres, leur microstructure leur est essentielle et ça rend ces choses nécessairement réalisables de façon unique. Au contraire, la question de savoir si une chose est une croyance, une instance de connaissance, une religion, une personne, une cause, une action libre, une démocratie, ne dépend pas de sa constitution matérielle sous-jacente. Corrélativement, ces choses semblent être réalisables de façon multiple. Autrement dit, différents types d'entités avec différentes propriétés physiques, des êtres humains, des animaux non humains, des systèmes, des ordinateurs, des aliens, peuvent être des personnes, peuvent agir de façon libre, peuvent avoir des croyances, peuvent avoir de la connaissance, en dépit donc de cette différence de propriétés physiques. Et manifestement aussi, des choses avec différentes propriétés physiques peuvent être des démocraties, peuvent être des religions et peuvent être des causes d'autres choses. Donc si on admet que ces deux observations sont justes, une suggestion qui vient assez naturellement, c'est celle selon laquelle la distinction entre réalisabilité multiple et réalisabilité unique fonde le non-uniformisme. Autrement dit, fonde le fait que l'on peut espérer découvrir l'essence des choses comme l'eau, l'or ou les citrons empiriquement, alors que ce n'est pas le cas s'agissant de l'essence des choses comme les personnes, les croyances ou la connaissance. Il me semble qu'il faut raffiner cette idée. Donc il faut raffiner cette idée que la bonne distinction, ça ne va pas être en un mot la distinction réalisable de façon multiple, réalisable de façon unique, mais ça va être autre chose, un peu associé. Pour comprendre pourquoi il faut la raffiner, prenez le cas de l'essence de Dieu, de l'essence du néant ou de l'essence des nombres. Tout comme l'essence des personnes, des croyances ou des connaissances, ou de la connaissance, pardon, ces essences de Dieu, du néant ou des nombres ne peuvent pas être découvertes empiriquement. Par ailleurs, Dieu, le néant ou les nombres ne sont pas des choses qui sont réalisables de façon multiple. Ce sont des choses qui sont non réalisables. Okay, bon, sauf si on est spinoziste, s'agissant de Dieu, peut-être, je ne suis pas sûr. Donc, un meilleur candidat pour pour fonder le non-uniformisme, plutôt que la distinction réalisable de façon multiple, réalisable de façon unique, un meilleur candidat, c'est la distinction réalisable de façon unique, non réalisable de façon unique. Okay. Et quelque chose n'est pas réalisable de façon unique lorsqu'elle est soit réalisable de façon multiple, soit lorsqu'elle est non réalisable. Donc là, ça permet de rendre compte du cas de Dieu, du néant et des nombres. Bon, et ensuite, là, c'est simplement qu'il faut un peu, étant donné la définition qui a été donnée de réalisabilité multiple, être un peu plus précis quant à la formulation des choses. Il faut dire que cette distinction, qui selon moi fonde le non-uniformisme, elle doit être formulée de la façon suivante. Les propriétés essentielles des choses de la liste B sont concevablement réalisables de façon multiple. Ça signifie que différentes propriétés physiques peuvent de façon concevable donner naissance à des instances des propriétés essentielles des choses de la liste B. Autrement dit, leurs propriétés essentielles aux choses de la liste B ne sont pas nécessairement réalisables de façon unique, contrairement aux propriétés essentielles des choses de la liste A, donc qui sont nécessairement réalisables de façon unique. Ce qui qui signifie que, s'agissant de ces choses de la liste A, il ne peut pas y avoir différentes propriétés physiques qui donnent naissance à des instances de ces propriétés essentielles, qui leur sont essentielles. Bon, je vais passer sur cette slide. C'était simplement pour vous dire que ça ne vaut pas simplement pour les objets ou les substances, mais aussi pour les événements et pour les processus. Donc, ça marche de la même manière. Cela dit, ça va être important pour la suite. Non, on va s'en sortir quand même. Donc maintenant, reprenons tout ça, nos deux listes, la distinction réalisable de façon unique, réalisable de façon multiple, et essayons de voir si ce qui pourrait s'en suivre quant au domaine respectif de la science et de la philosophie. Alors intuitivement, il me semble que cette intuition est correcte, peut-être qu'il ne faudra pas la qualifier d'intuition en ce cas, découvrir l'essence de l'eau, de l'or ou des citrons ou des tigres relève de la science. Okay. Ça me semble très difficilement contestable. Il me semble aussi qu'intuitivement, découvrir l'essence de la croyance, de la connaissance, de la religion, de ce que c'est qu'être une personne, de ce que c'est que pour une cause d'être la cause d'autre chose, ce que c'est que pour une action d'être libre ou de ce que c'est pour quelque chose d'être une démocratie, que découvrir cela relève de la philosophie. Okay. Cette observation, combinée à ce qui vient d'être dit à propos du fondement métaphysique du non-uniformisme, suggère la double thèse suivante. Découvrir les essences des choses dont les propriétés essentielles sont nécessairement réalisables de façon unique, en vertu du fait que ce qui est essentiel à ces choses, c'est leur microstructure, relève de la science et ne peut qu'être empirique. Donc, découvrir les essences des choses dont les propriétés essentielles sont nécessairement réalisables de façon unique, relève de la science ou appartient à la science et ne peut qu'être empirique. A l'inverse, découvrir les essences des choses dont les propriétés essentielles ne sont pas nécessairement réalisables de façon unique, relève de la philosophie et ne peut pas être empirique. Un peu la thèse forte, hein, vous avez compris du talk. Alors, comme d'habitude, le cas des mathématiques vient tout compliquer. Alors, faut tenter quelque chose pour s'en sortir. Et donc, je m'en sors de la façon suivante. Alors, je fais croire que c'est pour des raisons de temps, hein, que je ne peux pas en dire plus, mais c'est pas vrai. Dans le papier, je fais croire aussi que c'est pour des raisons d'espace, je vais dépasser mon quota de mots, etc. C'est pas tout à fait vrai non plus. C'est un peu vrai, quand même. Mais donc l'idée, c'est que, je raffine la chose de la façon suivante en disant que découvrir les essences des choses dont les propriétés essentielles ne sont pas nécessairement réalisables de façon unique n'appartient pas à la philosophie dans le cas suivant. Voilà. Donc là, je spécifie mon cas, la chose n'appartient pas au cas suivant, à savoir quand découvrir ces essences est basé ou s'appuie sur une maîtrise d'un langage dont le vocabulaire et les règles sont largement indépendants de ceux de tout langage naturel. Okay. Donc, si on admet ça, on peut dire, étant donné que les mathématiques, découvrir des essences mathématiques ne s'appuie pas sur la maîtrise d'un langage dont le vocabulaire et les règles, s'appuie sur la maîtrise d'un langage dont le vocabulaire et les règles sont largement autonomes par rapport à tout langage naturel, il s'ensuit que je peux continuer à dire ce que j'ai dit s'agissant de la philosophie. Vous pourrez me dire que c'est complètement ad hoc. Je dirais peut-être. Mais j'espère pas, en fait. Je crois réellement à cette chose-là, mais je ne dispose pas encore d'arguments qui me permettraient de vous convaincre que cette chose-là n'est pas un épicycle, mais au contraire parfaitement légitime. Maintenant, pour illustrer ce que je viens de dire, deux illustrations de ce que je viens de dire, et là j'en aurais terminé, je suis désolé d'avoir pris tout ce temps. Prenons le cas de rechercher, de ce que signifie, de ce qu'on peut entendre par rechercher l'essence de la douleur. Supposez qu'on ait groupé ensemble, sur la base de similarités observationnelles, certains comportements, verbaux et non-verbaux, et les activités neuronales qui leur sont associées, qu'on les ait regroupés sous l'étiquette de comportement, qu'on les ait qualifiés de comportement de douleur et d'activité neuronale typique de la douleur. Enquêter ou se demander, ou enquêter à propos de la question de savoir si ces choses-là qu'on a ainsi regroupées partagent, ont en commun une essence, consistera dans ce cas à enquêter de façon empirique à propos de la question de savoir si toutes ces choses sont des éléments d'un motif causal distinctif qui est fondé ultimement sur les propriétés microscopiques des entités impliquées. Et ça, c'est faire de la science. Et si on découvrait que ces entités qu'on a ainsi regroupées partagent, de ce point de vue, une essence commune, ont une essence en commun, cette découverte, cette essence empiriquement découverte, serait nécessairement réalisable de façon unique. Tout comme si on avait découvert qu'un certain type de choses qu'on a observationnellement regroupées sous l'étiquette de citron partageaient, si on découvrait que ces choses-là partageaient, avaient en commun certaines caractéristiques génétiques. Mais si par rechercher l'essence de la douleur, on se demande si on peut avoir la douleur de quelqu'un, s'il peut y avoir des douleurs inconscientes, si une douleur peut être plaisante, s'agissant de ces questions-là, si c'est ce qu'on entend par rechercher l'essence de la douleur, il n'y a pas de découverte empirique qui pourrait être faite, qui permettrait de répondre à ces questions et qui pourrait ainsi nous permettre de saisir l'essence de la douleur. Corrélativement, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on essaie de répondre à ces questions, on recherche l'essence d'une chose dont les propriétés essentielles sont de façon concevable, réalisables de façon multiple, et on fait de la philosophie. Donc, mon recoupement des distinctions continue de marcher. Bon, et ça, c'est la dernière slide. Voyons maintenant si ce qu'on peut entendre par rechercher l'essence de la connaissance. Si par rechercher l'essence de la connaissance, on veut dire enquêter de façon empirique sur la question de savoir si certains phénomènes qu'on a regroupés et sous l'étiquette d'instances de connaissance ont en commun un certain profil causal, si on fait ça, lorsqu'on fait ça, on ne recherche pas l'essence de la connaissance au sens où on le fait lorsqu'on se demande si la connaissance est la croyance vraie justifiée. Lorsqu'on fait la première chose, on ne cherche pas les conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour que quelque chose soit de la connaissance, parce que, comme j'ai déjà dit dans une slide précédente, il n'y aurait pas de sens à dire... Puisque si et ça sont des instances de connaissance, alors maintenant, regardons de façon empirique ce qui en fait des instances de connaissance et si c'en est réellement. Et la question dont je ne traiterai pas pendant cet exposé et qui se pose à ce point, c'est la question de savoir si les essences qui relèvent de la compétence de la philosophie, donc les essences des choses dont les propriétés essentielles sont de façon concevable, réalisable de façon multiple, la question de savoir si ces essences, qui donc ne peuvent pas être empiriquement découvertes, sont objectives ou indépendantes de l'esprit. On pourrait se demander si elles le sont tout autant que les essences qu'il appartient à la science de découvrir, ce sera une question pour une prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.